comme les autres. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez Martino, Cube Radio.
Tous les mercredis, je discute avec Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur. Adrien, j'ai pensé à toi aujourd'hui, je lis le Journal de Montréal, et on parle d'une étude qui est parue dans le British Medical Journal, une étude qui a été faite par un Québécois, en fait quelqu'un d'ici, de l'Université McGill, qui dit que les gens de gauche sont plus anxieux face à la COVID que les gens de droite.
Ben, sais-tu, ça... Ouais, ça m'étonne pas tout à fait, ça. Je pense que les gens de droite, là, si on veut, les gens qui sont plus pour les droits et libertés individuelles, sont aussi beaucoup pour la responsabilité personnelle, tu sais. Donc, eux autres, leur approche, c'est de dire, ben, laissez-nous faire, puis on va faire ce qu'il y a à faire pour éviter d'être infecté. Donc, on va décider, selon les circonstances, est-ce qu'on devrait aller visiter grand-maman au CHSLD ou non? Est-ce qu'on devrait, tu sais, faire un party de Noël, puis à combien est-ce qu'on devrait, tout ça. Alors, il y a cette espèce d'approche-là de responsabilité personnelle, alors que les gens qui sont de gauche, donc qui favorisent plutôt une intervention de l'État, eux autres, leur approche, c'est de dire, ben, laissons les experts décider pour nous, le petit peuple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir 4 personnes à Noël ou 2? Est-ce qu'on fait 3 parties ou 1 ou 0? Alors, c'est pour ça que ce que tu me dis là, ça m'étonne pas vraiment. T'sais.
C'est ça. C'est-à-dire que les gens de gauche disent, ben nous autres, on n'est pas aptes à prendre ces décisions-là. On a besoin du gouvernement, comme on disait avant, on a besoin de l'Église qui nous prend en charge. Les gens de droite disent, je suis capable de me débrouiller tout seul.
Ouais, puis évidemment, ce qui arrive, c'est que, tu sais, le problème de la COVID, un peu, c'est que, puis moi-même, là, ça réalise, tu sais, c'est que ce que tu fais, tu sais, si je te rencontre dans la rue, Richard, puis je te donne un coup de pied, puis je te fais tomber, ben, tu sais, j'ai posé un geste consciemment, je t'ai fait du tort et je suis responsable des dommages que je t'ai causés. Mais si je passe à côté de toi, puis je fais respirer, puis je te donne le COVID sans le savoir, et que là, toi, tu retournes chez toi, puis une semaine après, t'es sur le carreau, ben là, tu ne sais pas qui c'est qui t'a infecté, puis tu peux pas revenir contre moi. T'sais, alors, c'est sûr que la responsabilité personnelle, dans un certain sens, il y a un peu une limite. C'est un peu ce qu'on appelle le problème des externalités. C'est un peu le problème de la pollution, tu sais. Si j'ai une usine et que je pollue l'air ou je pollue la rivière, puis que 3 kilomètres plus bas, toi, tu bois l'eau de la rivière puis tu es empoisonné, ben est-ce que je suis responsable? Comment tu fais pour prouver que c'est moi qui est responsable? Mmh. Il y a ce qu'on appelle le problème des externalités. Mais normalement, tu quand même, quand tu regardes généralement, les gens doivent être responsables et responsabilisés. Puis cette déresponsabilisation-là, on la voit beaucoup dans les sociétés où l'État intervient beaucoup. Prends par exemple le no-fault. T'sais, le no-fault, c'est un bel exemple de déresponsabilisation. Donc, tu peux avoir un accident, c'est pas grave, t'es pas responsable. Mmh. Tu peux tuer quelqu'un en auto ou le blesser, puis c'est pas grave. Et ça mène à des situations où les gens disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, t'es alcoolique, t'as pris un coup, t'as frappé quelqu'un et tu l'as tué, ben le no-fault, les gens disent ça n'a pas de bon sens. Dans ce cas-là, le no-fault ne devrait pas s'appliquer. Et là, on rentre dans une espèce de pattern où on va dire, je le pousse au maximum, mais on va dire, t'es allé à Cancun, t'es revenu, t'avais le COVID, donc je te soigne pas. Tu sais, on finit par pousser le raisonnement au point où l'État va décider, va te punir en disant, ben là, t'es allé à Cancun, t'es un touriste à temps, et pourquoi est-ce que l'État devrait payer pour toi puisque tu as pas utilisé, t'as pas eu un bon comportement? Alors, l'État de gauche finit par tout contrôler parce que il enlève les incitatifs normaux, t'es responsable des dommages que tu causes par ta faute. Si tu enlèves ça, ben là, tu n'es plus responsable. Alors, l'État doit trouver une autre façon de te responsabiliser et c'est lui qui va décider, ben, Si tu fumes, on te soignera pas pour le cancer. Si t'as pas mis de capote, on te soignera pas pour la maladie.
Mais moi, j'ai toujours trouvé que la gauche sous-estime les gens en disant que il faut les prendre en charge, c'est des enfants, puis ils sont pas capables d'être responsables. Je trouve qu'ils sous-estiment, mais autant la droite les surestime en disant, ben non, écoute, tous les citoyens sont responsables et sont capables de prendre la meilleure décision pour eux-mêmes. Non, il y en a des bozos qui sont incapables, puis il faut penser pour eux autres.
Ah, c'est sûr, tu sais, t'as pas 100% des parents qui élèvent bien leurs enfants, t'as pas 100% des employeurs qui sont gentils avec leurs employés, puis à l'inverse, t'as pas 100% des Québécois qui sont des caves, puis mais chacun des deux côtés a avantage à pousser sa rhétorique, tu sais, puis en disant, ben là, vous voyez, on laisse les Québécois faire, puis voici ce qui arrive, tu sais. Donc, il faut qu'on intervienne.
J'ai un auditeur qui nous écoute, qui réagit en temps direct. Et j'aimerais savoir si, pour M. Pouliot, le code de sécurité routière est liberticide.
Ben, c'est ça. Alors, ça, c'est... Non, je pense que, tu sais, je suis pas pour... Je propose pas d'abolir l'État. Tu sais, oui, ça prend un État, c'est certain. Et si tu veux, ça prend des règles, tu sais, OK, on va tous conduire. On s'entend qu'on conduise tous à droite, là, tu sais, parce que si on n'y a pas ça, ça va être l'enfer. Mais est-ce que... C'est un bon exemple, le code de sécurité routière. Est-ce que on devrait imposer des limites de vitesse? Si oui, lesquelles? Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que si tu mets pas de limite de vitesse, il y a une espèce de moyenne que les gens conduisent puis ils sont confortables.
T'sais, en Allemagne, je pense qu'il n'y a pas de limite de vitesse sur les autoroutes en Allemagne, je crois.
Sur l'autobahn, oui, c'est ça. Sur l'autobahn, il n'y a pas de limite. Mais tu sais, si tu ne mettais pas de limite de vitesse sur la 20, là, ou la métropolitaine ou la 40, les gens, là, ils ne rouleraient pas à 200. Il y en a peut-être quelques-uns, là, mais il y a une espèce de vitesse, selon les études, où les gens sont relativement confortables. Je ne te dis pas qu'il ne devrait pas avoir de limite de vitesse à nulle part. Mais le code de la sécurité routière, c'est rendu, je veux dire, c'est une brique, là. C'est une affaire de 3 pouces d'épais, là. Il y a des règles. T'sais. Alors, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il y en ait des règles, mais il y a une limite, tu sais. C'est un peu comme la réglementation sur les entreprises. Oui, ça prend la réglementation, mais à certains points, ça devient tellement lourd, tellement bureaucratique que tu as toutes sortes de décisions par des fonctionnaires qui bloquent l'innovation, qui bloquent la créativité, qui ont l'effet contraire de ce que tu essaies d'encourager.
Adrien, autre chose, je veux absolument te parler de Donald Trump, bien sûr. Ça, bon, il quitte aujourd'hui. Je veux qu'on fasse un exercice, OK, toi et moi. Parce qu'on non, mais au cours des 4 dernières années, on a beaucoup parlé de sa personnalité, son côté grossier, vulgaire et tout ça. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de l'homme. Retirons ça. Mettons que ce gars-là avait eu un caractère, une personnalité normale. OK, là, son programme... OK, revenons à son programme. Si ça avait été un politicien normal, courtois, gentil, tout ça, qui avait appliqué le programme de Donald Trump, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, indépendamment de lui, est-ce qu'il a été un bon président, selon toi?
Mais moi, je pense que c'est là. Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté à défendre Donald Trump ou les politiques de Donald Trump parce que justement, les gens disent « Oui, mais c'est un personnage grossier, puis c'est un personnage qui tweet toutes sortes de conneries, puis ça, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, il est grossier, il est insultant, il y a, bon. » Mais quand je regarde ses politiques, surtout, disons, au début, pour moi, c'était des bonnes politiques. La baisse d'impôts, la diminution de la réglementation, il a fait un paquet de choses comme ça qui faisaient du sens au niveau des politiques publiques. Les gens de la gauche sont pas d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que il a été élu pour faire ça, justement, pour réduire la réglementation, pour essayer de diminuer le fardeau fiscal. Il a fait des choses aussi.
Le protectionnisme.
Ben, c'est ça, le protectionnisme, ça, c'est, moi, je suis en faveur du libre-échange, mais je suis en faveur du libre-échange, mais il faut que les parties jouent les mêmes règles du jeu. T'sais, si les Chinois bénéficient du libre-échange, mais qu'en échange, ils volent la propriété intellectuelle des Américains,
ben oui.
Ils empêchent l'investissement des Américains dans des entreprises chinoises, à moins que les Chinois contrôlent l'entreprise. Il faut que ça soit donnant-donnant. Et moi, je pense que l'approche de Trump, c'était de dire, il faut que ça soit fair trade, donc du commerce juste. Mais la méthode pour arriver, la méthode de Donald Trump, c'est je sors le bat de baseball puis je swing. Tu sais. Et là, j'assomme tout le monde et je les bats avec le bat de baseball jusqu'à temps qu'ils se soumettent à moi. Bon, alors là, tu peux trouver que la façon d'y arriver, c'est pas la bonne façon, mais l'idée de dire il faut que les Chinois jouent la game de façon correcte et nous permettent d'investir et cessent de voler notre propriété intellectuelle. Moi, je pense que ça, c'était correct. Alors, je pense qu'il y a eu des bonnes politiques, mais sa personnalité était tellement polarisante que
il a été son pire ennemi parce que s'il avait été correct, peut-être qu'il aurait été une sorte de Ronald Reagan, c'est-à-dire tu peux si t'es de gauche pas être d'accord avec ses politiques, mais reconnaître que c'était quand même un bon président Reagan. Je pense que tu sais, il a été un président important dans l'histoire des États-Unis, même si peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord avec ses politiques, mais Il s'est auto-pelure de bananiser, là.
Oui, et il s'est aussi attaqué, Richard, à l'establishment. Parce que Trump, c'est un gars de l'externe. C'était pas un républicain, c'était pas un démocrate. C'est un gars qui venait de l'extérieur. Et il a dit souvent, « I'm going to drain the swamp. » Puis j'ai pas encore trouvé une bonne traduction de ça. Mais tu sais, je vais éliminer la corruption ou la toute la petite gang de Washington là qui ont les mains dans les plats de bonbons là puis qui se servent puis qui font du lobbying puis qui s'aident puis qui se donnent des tapes dans
le dos. Puis il a dénoncé le biais des médias aussi. Puis c'est important de le faire aussi parce que c'est vrai qu'il y a bien des médias qui ont des biais de gauche. Puis c'est le fun de voir un président qui le dit.
Alors donc en s'attaquant à l'establishment d'une part et d'autre part en s'attaquant aussi aux médias, il s'est mis à dos deux forces là, très, très puissantes. T'sais, la bureaucratie était contre lui, les lobbies étaient contre lui, les médias étaient contre lui. Alors, tu as toute une côte à remonter dans ce temps-là. Il aurait peut-être pu le faire d'une autre façon. Mais remarque, c'est quand même assez extraordinaire de voir la façon qu'il a géré les médias sociaux, sauf peut-être les trois dernières semaines, mais tu sais, de dire que le gars avait quoi, 70 millions de followers sur Twitter et que souvent les nouvelles américaines à 6 heures le soir commençaient en disant, ben, la nouvelle du jour, c'est le tweet de Trump de ce matin. C'est quand même extraordinaire. Alors, il a amené une autre façon, certainement, de gérer les médias sociaux ou d'utiliser les médias sociaux. Je suis pas sûr qu'on va revoir, c'est sûrement pas Biden qui va utiliser les réseaux sociaux comme ça, là.
Boy, ben, je sais même pas s'il connaît Word. Je sais même pas s'il peut
jouer avec Word. Tu sais que Biden, ça va être à son inauguration, il va être le plus vieux président jamais inauguré. Donc, à la date de l'inauguration, il va être le plus vieux président que les États-Unis ont jamais eu. C'est spécial.
Oui, je sais pas s'il va se rendre jusqu'au bout ou si ça va être. On va se retrouver avec la présidente, Madame Harris.
La première femme présidente, c'est très possible que ça arrive. D'ailleurs, même Biden l'a dit un peu en rigolant. Des fois, il a déjà présenté Kamala Harris en disant You're next president.
oui, parce qu'il a pas l'air fringant, M. Biden. Merci beaucoup, Adrien. Bonne semaine.
Toujours un plaisir, Richard.
Salut. Bye.